RFI, 6h, à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal comme chaque jour. Bonjour Gaëtan Planet.
Ah bonjour Julien, bonjour à tous.
Après le président français Emmanuel Macron, c'est Keir Starmer qui est attendu à Washington.
Avec le même objectif, celui d'essayer de convaincre Donald Trump que les Européens ont leur rôle à jouer dans la paix en Ukraine. Les corps sans vie de 4 otages israéliens ont quitté Gaza cette nuit. Israël de son côté a libéré plus de 600 prisonniers palestiniens comme prévu dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Dans ce journal également, la France qui menace de remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968 sur fond de tensions sur la question migratoire. On va parler aussi du groupe britannique BP qui enterre définitivement ses ambitions climatiques. Et puis on terminera en musique avec le nouvel album du sud-africain Abel Selachwe et on serait bien en peine de le mettre dans une case.
Véritable ballet diplomatique en Europe.
Pour parler de l'Ukraine, le futur chancelier allemand Friedrich Merz en a parlé hier soir à l'Elysée avec le président français Emmanuel Macron qui lui en parlera très certainement dès aujourd'hui lors de sa visite au Portugal après en avoir déjà parlé lundi à Washington avec son homologue américain. Ce dernier ne s'arrête pas là non plus puisqu'il recevra le président ukrainien Volodymyr Zelensky demain et un autre dirigeant européen aujourd'hui, le premier ministre britannique Keir Starmer à son tour de tenter de convaincre Donald Trump que la paix en Ukraine ne se fera ni sans l'Ukraine, ni sans les Européens. Julien Chavanne.
La presse britannique y voit le premier vrai test diplomatique pour Keir Starmer. Ce déplacement à Washington donnera le ton dans les relations futures entre les deux pays. Et pour amadouer son interlocuteur, le Premier ministre britannique a prévu le coup. Avant de s'envoler outre-Atlantique, il a annoncé une augmentation inédite du budget de la défense. Exactement ce que réclame au vieux continent Donald Trump. Keir Starmer a aussi pris le temps de téléphoner à Emmanuel Macron pour débriefer sa visite à la Maison-Blanche. Sur l'Ukraine, il va plaider comme le président français pour que les Ukrainiens et les Européens fassent bien partie des discussions avec la Russie. Keir Starmer se verrait bien jouer au facilitateur entre les États-Unis et l'Europe, mais il espère aussi protéger son pays des hausses des tarifs douaniers qui menacent déjà l'Union européenne. Ce sera seulement la deuxième rencontre entre Keir Starmer et Donald Trump, deux hommes au caractère diamétralement opposé. Ils avaient dîné ensemble pendant 2 heures en septembre dernier dans l'appartement du candidat républicain à Manhattan. Keir Starmer avait alors tout misé sur lui, sans prendre la peine de rencontrer sa rivale Kamala Harris.
Pari gagnant puisque c'est bien Donald Trump qui l'a emporté. Enfin, peut-être pas si gagnant que cela, cela dit, ce pari pour l'Union européenne. Étant donné l'avis du locataire de la Maison Blanche, l'UE aurait été conçue pour entuber les États-Unis, dit-il, annonçant au passage que les produits européens se verraient prochainement imposer des droits de douane de 25%. Son ministre du Commerce a lui déclaré sur la chaîne Fox News que Washington pourrait appliquer dès le mois d'avril des droits de douane réciproques avec le Canada et le Mexique, à distinguer de ceux qui pourraient entrer en vigueur dès mardi et destiner ces droits de douane-là à faire pression sur ces deux pays pour qu'ils luttent davantage contre l'immigration illégale et le trafic de fentanyl. Les États-Unis toujours qui annoncent la suppression de 92% des financements à l'étranger de l'USAID, l'agence américaine de développement. Ça représentera, nous dit la Maison-Blanche, des économies de près de 60 milliards de dollars pour les contribuables. Le financement de cette agence était déjà gelé depuis plusieurs semaines, suscitant l'inquiétude de nombreuses organisations internationales, alors que l'USAID représente à elle seule 42% de l'aide humanitaire mondiale. Et puis on apprend aussi ce matin, dans un document du Pentagone, que les États-Unis vont expulser les personnes trans de l'armée américaine. Seules celles et ceux qui disposeront d'une autorisation spéciale pourront continuer à servir, à condition, peut-on lire, d'un intérêt gouvernemental impérieux.
RFI, 7h04, à Gaza, c'était le dernier échange prévu dans la première phase de la trêve.
Les corps de 4 otages israéliens tués dans l'enclave, rendus hier soir à Israël, qui va maintenant les identifier. En échange, les autorités israéliennes ont-elles libéré 602 prisonniers palestiniens accueillis par des foules en liesse dans la bande de Gaza. Le Hamas estime qu'Israël n'a, je cite, d'autre choix que de démarrer les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu. La première est censée s'achever samedi. Et si les armes se sont tues à Gaza, elles ont à nouveau résonné en Syrie où l'armée israélienne a mené des frappes dans la nuit de mardi à mercredi, affirmant viser des sites militaires. 2 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors des frappes israéliennes en Syrie contre des objectifs liés à l'Iran ou au Hezbollah libanais, bien ce n'est pas nouveau, elles ont été nombreuses ces dernières années. Pourtant, le pouvoir est tombé en Syrie, c'était en décembre. Alors pourquoi ces frappes se poursuivent-elles? On a posé la question à Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Et pour lui, les objectifs d'Israël en Syrie ne peuvent pas être dissociés des autres enjeux régionaux.
Les priorités du gouvernement de Benjamin Netanyahou paraissent assez claires. La première d'entre elles, c'est de régler durablement la question palestinienne dans un sens à la fois idéologique et sécuritaire qui soit favorable à la politique suivie par Netanyahou, c'est-à-dire encourager le départ maximum de Gazaouis, ça c'est pour la bande de Gaza, et préparer l'annexion d'une grande partie de la Cisjordanie. Et donc, sa deuxième priorité, c'est clairement se tenir en embuscade face à l'Iran. Dans le contexte actuel, le gouvernement israélien doit tenir compte à la fois des pressions américaines de Donald Trump, mais aussi tenir compte surtout de ce qui vient de se passer en Syrie, c'est-à-dire en fait de l'effondrement du précédent régime syrien. Le message à Damas est très clair, c'est de leur dire l'armée israélienne se tient prête à frapper toute menace ou toute résurgence de menace, pas forcément syrienne, hein, mais émanant de groupes armés. Et le message indirect, c'est de dire contrôlez votre territoire, sinon c'est Israël qui se chargera de taper directement sur les groupes armés.
À des propos recueillis par Nicolas Falaise.
Ce qui se passe dans l'est de la RDC est inacceptable.
La déclaration du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui a achevé sa visite dans le pays. Il a plaidé pour la création d'un tribunal pénal pour le Congo, chargé d'enquêter sur les crimes commis dans la région où le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit son offensive.
François Bayrou l'assure, il ne veut pas d'escalade avec Alger.
La déclaration au terme d'un comité interministériel sur l'immigration, sujet de tension entre les deux pays. Tension ravivée il y a quelques jours avec l'attentat de Mulhouse, perpétré par un ressortissant algérien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Selon le gouvernement français, les autorités algériennes auraient refusé 14 fois de le reprendre sur leur sol. À Paul Lorgerie, la France réagit donc et va demander à l'Algérie de réexaminer l'accord de 1968.
Cet accord, qui confère un statut unique aux Algériens et facilite leur circulation entre les deux pays, a été révisé à 3 reprises, restreignant ainsi leurs conditions d'entrée. Un principe souvent débattu au Parlement français, comme en 2023, lorsqu'une proposition de loi en faveur de l'abrogation de ce traité a été déposée par les Républicains.
Revenir à chaque fois aux accords de 68, il y en a marre.
Liazid Benhami est membre du groupe de réflexion sur l'Algérie, mais c'est en tant que franco-algérien qu'il souhaite s'exprimer.
Les gens qui viennent d'Algérie, ils déposent leur visa au consulat français à Alger ou ailleurs, ils ne viennent pas avec une stratégie parce qu'il y a les accords de 68. Je vous le dis honnêtement, c'est ridicule.
Selon une spécialiste du Maghreb, la déclaration du Premier ministre français est un positionnement pour certains acteurs politiques français, et les deux pays en sortent perdants. Difficile pour autant de dire quels seront les effets si Paris décidait de dénoncer l'accord. Pour Pierre Vermeyren, historien spécialiste du Maghreb, cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de visas délivrés par la France.
Les 250 000 visas que la France accorde actuellement à l'Algérie, qui sont dans la sellette, peut-être pas en totalité bien sûr, mais en tout cas en grande partie, si l'accord de 68 venait à être réduit.
Selon l'historien, un autre accord pourrait être dans le collimateur des autorités françaises, celui de 2013, portant sur l'exemption de visa pour les Algériens détenant un passeport diplomatique.
Précision de Paul Lorgerie.
En France toujours, le procès de Joël Le Skouarnec continue devant la cour criminelle du Morbihan.
Cet ex-chirurgien est accusé de viol et agression sexuelle sur 300 patients mineurs. Hier, son ex-épouse a été entendue en tant que témoin. L'enjeu était de savoir si elle avait connaissance des penchants pédocriminels de son mari. Pour l'accusation, c'est une certitude, mais elle continue de nier, Baptiste Coulon.
Elle s'avance à la barre, cachée derrière le masque chirurgical qui recouvre son visage. Rapidement, le ton devient théâtral et arrogant. « Non, je n'ai jamais eu de doute », assure-t-elle sans trembler. Mais en 2017, face aux enquêteurs, elle était catégorique. Son mari allait sur des sites pédopornographiques, des propos dont elle dit ne plus se souvenir aujourd'hui. Très à l'aise sur sa chaise, jambes croisées, elle semble ne pas prendre en mesure la gravité des faits reprochés à son ex-mari. Elle va jusqu'à douter de certaines accusations. L'une de ses nièces a été agressée sexuellement par Joël Le Skouarnec. Elle la traite de menteuse. Alors la cour passe la vitesse supérieure et souhaite diffuser des images. En l'occurrence, des photos à caractère sexuel d'enfants prises par Joël Le Skouarnec. Elle refuse. Mais il y a des réalités auxquelles il faut faire face, tonne l'avocat général. Les images sont diffusées, elles détournent le regard. Joël Le Skouarnec fait de même. 5 heures d'audition et de déni s'achèvent quand une avocate de victime tente une autre approche. Vous voyez, toutes ces personnes, elles sont là à cause de votre ex-mari. Oui, elles sont victimes, comme moi, dit-elle. Jamais elle ne leur adressera un mot de compassion.
Un compte-rendu d'une audience signée Baptiste Coulon. À l'île de la Réunion, se prépare à l'arrivée de Garance, un cyclone jugé dangereux. L'alerte rouge cyclonique sera appliquée dès ce soir. Cette alerte ordonne notamment le confinement de la population.
Elle était il y a 5 ans encore l'une des multinationales pétrolières les plus ambitieuses en matière d'énergie verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Mais BP en est loin, aujourd'hui très loin. Le groupe britannique annonce même au contraire qu'il va augmenter sa production de pétrole et de gaz plutôt que de la réduire, Justine Fontaine.
À fond dans les énergies fossiles. Pendant une conférence retransmise en ligne et destinée aux investisseurs, le patron du groupe Murray Auchincloss a tiré un trait sur les ambitions climatiques de BP.
Nous sommes allés trop loin, trop vite. Aujourd'hui, nous réorientons totalement notre stratégie. Nous augmentons nos investissements pour produire plus et générer plus de trésorerie. Car la demande en énergie va augmenter dans la décennie à venir et même au-delà, ce qui crée des opportunités non négligeables pour BP.
En 2020, le groupe avait promis de réduire d'un quart sa production de pétrole et de gaz avant 2030. BP était ensuite revenu en partie sur cette promesse dès 2023. Il va donc encore plus loin aujourd'hui en prévoyant de forer plus qu'avant. Une position qui va à l'encontre des recommandations des scientifiques face au réchauffement de la planète. La multinationale, qui a enregistré de mauvais résultats l'an dernier, va aussi presque diviser par 4 ses investissements dans les projets de transition, y compris les énergies renouvelables. D'autres groupes pétroliers et gaziers, comme Shell, ont récemment revu leurs ambitions climatiques à la baisse. Ce mercredi, les investisseurs n'ont en tout cas pas tous été convaincus par ce changement de stratégie. Le cours de l'action BP s'affichait en baisse à la Bourse de Londres.
À Justine Fontaine.
On se quitte en musique, Gaëtan, mais pas facile de dire quel style précisément.
Oui, c'est certainement ce qui fait le charme d'Abel Selaouchoué, artiste sud-africain inclassable qui navigue entre chant, composition, percussion et puis son instrument fétiche aussi, le violoncelle. À 32 ans, ce fan de musique baroque et de polyphonie zoulou sort un nouvel album à son image finalement, Hymns of Bantu, Carmen Huntsman.
C'est un retour aux sources pour le sud-africain Abel Selaouchoué et un hommage aux héros de la lutte contre l'apartheid.
I live by this code of Ubuntu.
Je vis par le code Ubuntu, cette notion humaniste, je suis parce que vous êtes. Je me tiens sur les épaules de géants, mes ancêtres qui se sont battus pour ma liberté, Desmond Tutu, Steve Biko, Chris Hani, c'est de là que je tire mon inspiration.
My source of inspiration from.
Issu d'un township près de Johannesburg, ce fils d'un mécanicien et d'une femme de ménage a dû faire preuve d'imagination pour apprendre le violoncelle à 11 ans.
Because of a lack of resources.
En raison du manque de ressources, on avait accès à l'instrument seulement une fois par semaine. On a donc dessiné 4 lignes pour les cordes et on a posé nos doigts sur le papier pour imaginer le son à l'intérieur. Plus vous vous montrez ingénieux, plus les gens vous donnent l'opportunité.
Aujourd'hui, Abel Selaouchoué passe du violoncelle à la voix, de la musique occidentale aux rythmes africains pour célébrer le métissage et le dialogue entre les cultures, où, comme il le chante en bantou, tout est lié.
Hymns of Bantu d'Abel Selaouchoué, c'est sorti chez Warner Classics. Et ce sera notre choix musical du jour, juste avant 9h, heure de Paris, dans RFI Matin, avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci Gaëtan Planet, à tout à l'heure. Jeudi 27 février 2025, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information. Et à la une, 4 corps d'otages rapatriés en Israël, 602 prisonniers palestiniens de retour chez eux. La dernière étape, cette nuit de la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On appelle Oriane Verdier à Tel Aviv dans le journal de 6h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi au tour des Européens de passer à la caisse. Donald Trump annonce son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits importés de l'Union européenne. L'UE est accusée d'avoir été créée pour entuber, je cite, les États-Unis. On retrouvera Pierre Benazet à Bruxelles. Également au sommaire, les enlèvements en Guinée dénoncés par Amnesty International, alors qu'on reste sans nouvelles de Fonny Kemenge et Mamadou Biloba 7 mois après leur disparition, et que la semaine dernière, Abdoul Sakho, l'opposant, a été enlevé et visiblement torturé. Le directeur exécutif d'Amnesty International en Guinée est avec Christophe Boisbouvier tout à l'heure. Et puis l'appel du procureur de la Cour pénale internationale pour la création d'un tribunal spécial pour le Congo, alors que l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda se poursuit dans l'est de la RDC. Vous entendrez Karim Khan dans le prochain journal à 5h30, temps universel. Et pour commencer ce matin, à la une en Asie, nous emmène dans les eaux très agitées qui séparent Taïwan de la Chine continentale, une zone encore une fois sous tension cette semaine, alors qu'hier l'armée de Pékin a lancé des exercices de tir à munitions réelles au sud de l'île, selon les autorités taïwanaises. En réponse, Taipei a déployé des forces au large afin de surveiller, alerter et réagir. Et mardi déjà, les autorités taïwanaises avaient arrêté un cargo lié à la Chine, soupçonné d'être impliqué dans la rupture d'un câble de communication sous-marin. Bonjour Nicolas Roquin.
Bonjour Julien.
Pourquoi cette agitation à nouveau dans le détroit de Taïwan ?
Alors les exercices chinois autour de l'île sont fréquents, les incursions des navires de guerre comme des avions chinois se sont multipliées ces dernières années, mais il est vrai que la tension a grappé d'un cran avec l'arrivée de Lai Ching-te au pouvoir à Taipei. Le président démocrate est vu par Pékin comme un dangereux séparatiste. Ces exercices à tir réel ce mercredi, que Pékin n'a pas officiellement qualifié comme tel, se sont déroulés à seulement 74 km de l'île. Des manœuvres qui font craindre aux Taïwanais la répétition générale d'un scénario souvent évoqué en cas d'invasion, celui du blocus.
L'idée, Nicolas, serait d'isoler complètement l'île, aussi bien physiquement qu'au niveau des télécommunications.
Exactement, et c'est pour cela que toutes les informations concernant les câbles sous-marins qui relient l'île au reste du monde sont particulièrement sensibles. Vous l'avez dit, ce mardi, un navire a été intercepté au sud-est de Taïwan. Le bateau était proche d'un câble sous-marin depuis ce samedi et ne répondait pas aux multiples tentatives de communication des gardes-côtes taïwanais. Quelques heures après qu'ils jettent l'ancre ce mardi, Taipei a détecté la déconnexion du câble. L'équipage du navire battant pavillon togolais a été intercepté et à son bord se trouvaient 8 Chinois. Les autorités taïwanaises ont lancé une enquête mais n'excluent pas qu'il s'agisse d'une opération chinoise.
Que répond Pékin ?
D'abord que les autorités taïwanaises politisent inutilement l'affaire, mais surtout, elles répondent que ces incidents sont fréquents, parfois dus à des causes naturelles ou bien à des erreurs de bateaux de pêche, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que cela arrive de plus en plus souvent autour de Taïwan. C'est au moins le 5e incident du genre cette année, plus que sur toute l'année 2024. Et 99% de la connexion de l'île dépend de 14 câbles sous-marins internationaux et d'une dizaine de câbles nationaux. Couper l'île du monde semble loin d'être infaisable pour Pékin, dont la flotte est nettement supérieure à celle de Taïwan.
Que peut faire Taipei, donc, pour répondre à cette menace?
Tout d'abord, sécuriser sa connexion avec le reste de la planète par d'autres moyens. Le gouvernement a déjà débuté des discussions avec Amazon qui pourrait offrir des garanties solides grâce au projet Kuiper qui compte placer un réseau de plus de 3000 satellites en orbite. Les autorités développent aussi des ballons à haute altitude pour garantir des communications en temps de crise. Mais l'autre option est celle d'empêcher l'armée chinoise d'agir comme bon lui semble autour de l'île. Lai Ching-te, le président taïwanais, veut augmenter à 3% du PIB le budget de la défense. Et en avril, les très attendus derniers essais du premier sous-marin indigène taïwanais, le Haikun, auront lieu. Grande nouveauté pour le pays qui dispose d'une flotte très vieillissante. Le nouveau venu, construit à Taïwan, dispose d'équipements militaires américains. L'armée taïwanaise doit en construire 8, un atout vital pour tenter de dissuader la Chine.
À la une en Asie, Nicolas Roca, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et un œil sur la suite de votre matinée à l'écoute d'RFI. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans une heure, votre grand invité international est le président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat français.
Oui, Rachid Temal, avec lui on va évoquer la crise entre Paris et Alger. Ces derniers jours, les tensions ont été ravivées par un attentat à Mulhouse dans l'est de la France. Un Algérien en situation irrégulière, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, a perpétré une attaque au couteau. Or, la France assure avoir tenté à 14 reprises d'expulser l'homme vers l'Algérie, mais Alger a toujours refusé. L'affaire vient s'ajouter évidemment à celle d'influenceurs algériens et à l'arrestation à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Face à cette crise, le ministre français de l'Intérieur s'était dit prêt à entrer dans un rapport de force. On y est peut-être puisque François Bayrou a lancé un ultimatum hier. Le Premier ministre demande au gouvernement que soit réexaminée la totalité des accords entre les deux pays dans un délai de 6 semaines. Bayrou se défend d'être dans une logique d'escalade, mais cette méthode est-elle la bonne? La menace peut-elle avoir des effets? Les deux pays sont-ils au bord de la rupture? On en parle avec le sénateur Rachid Temal tout à l'heure.
Notre grand invité international avec vous dans une heure, Arnaud Pontus. Merci, à tout à l'heure. C'est une ressource sous-exploitée, trop absente dans l'alimentation des Européens. Les légumineuses, lentilles, pois cassés, haricots rouges, ces légumes secs dont les graines sont contenues dans des gousses font partie des solutions face au changement climatique, à la perte de biodiversité et aux difficultés des agriculteurs. Ces plantes permettent de revitaliser les sols, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont bonnes pour la santé humaine, animale et des écosystèmes. Alors en Alsace, dans l'est de la France, des agriculteurs et des collectivités territoriales travaillent main dans la main pour qu'elles fassent leur grand retour dans les champs et dans les assiettes. Reportage Lucille Gimbert.
Face à nous, ici, là où on se trouve, donc juste à côté du hangar, une dizaine d'années en arrière, c'est vrai qu'on voyait du maïs à perte de vue. Et depuis 2021, maintenant, on a lancé Graines d'Alsace, donc la culture de légumineuses.
C'est la sécheresse de 2020 qui a poussé Grégory Axer et ses 3 associés agriculteurs à se diversifier. Car dans les terres caillouteuses de la plaine d'Alsace, le maïs ne pousse qu'à grand renfort d'irrigation. Les lentilles, pois chiches et quinoa qu'ils ont introduits dans leur rotation de culture nécessitent, eux, de pomper beaucoup moins d'eau dans la nappe.
On le voit déjà rien que sur le gasoil pour nos groupes qui alimentent les irrigations, hein, où là, il y a besoin de déjà moins de gasoil.
Autre bénéfice économique et environnemental, ils achètent moins d'engrais d'azote de synthèse, car les légumineuses fixent naturellement l'azote dans le sol.
L'azote dans le sol, c'est un petit peu comme ce que nous, on a le midi et le soir dans l'assiette. C'est vraiment ce qui donne à manger à la plante. Et ce gain-là, dû aux légumineuses, on va retrouver ça 2 voire 3 ans encore après sur la même parcelle.
Les agences locales de l'eau et de la santé se réjouissent aussi qu'ils cultivent sans pesticides. Même si leurs prix sont donc plus élevés que ceux des légumes secs importés, les clients répondent présents.
2023, on était sur 7 tonnes de vendus à l'année. 2024, on a frôlé les 20 tonnes. C'est bon, chef ?
Comme là. Avec l'aide de collectivités territoriales, les 4 compères ont même monté la filière légumineuse dans la région. Une dizaine d'agriculteurs les ont déjà rejoints.
Alors là, on ouvre le sac, on va le mettre sur la balance et Olivier va commencer à remplir. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir nos 5 kilos de pois chiches.
Olivier Hiss, l'un des associés fondateurs.
Au début, tout le monde nous a pris pour des fous, tous les agriculteurs des villages aux alentours. Et en fait, c'est comment dire, une consommation de l'avenir dans les 10 ans qui viennent déjà. Hein. Faire une nouvelle culture, c'est vrai que ça fait du stress, oui, mais c'est aussi une fierté. Tu te dis, t'as réussi quelque chose parce que les gens, ils viennent vers toi.
À l'autre bout de la chaîne, l'Eurométropole de Strasbourg encourage cette nouvelle filière locale en servant davantage de légumineuses dans les cantines scolaires. L'élu Antoine Neumann est en charge des questions agricoles et alimentaires.
Plus de la moitié de la surface agricole de la métropole de Strasbourg est occupée par du maïs, qui nourrit même pas des animaux. Celui-là, il sert à faire des plats transformés, à faire des biscuits apéritifs, des sodas. On nourrit pas les gens avec ça. Donc il y a un gros enjeu à reproduire des choses qu'on mange et pas des choses pour favoriser le diabète, l'obésité ou des choses comme ça.
Apprendre à aimer les légumineuses, source de protéines, c'est aussi s'ouvrir à une alternative à la viande et ainsi réduire l'empreinte carbone de son assiette.
Lucille Gimbert pour notre reportage France que vous retrouvez sur RFI.fr. Et dans notre question d'environnement ce matin, les grandes forêts tropicales et leur rôle essentiel pour le climat, on en parle souvent sur RFI, leur fonction de poumon vert, de stockage du CO2 est de plus en plus compromise, en partie à cause de la disparition de la faune sauvage. C'est ce qu'on va voir avec vous, Linda Rousseau. Quel est le lien entre la capacité des arbres à stocker du carbone et les animaux?
Eh bien, dans les forêts tropicales, en Afrique centrale ou en Amazonie, les gros animaux comme les éléphants ou les orangs-outans mangent beaucoup de fruits. Et grâce à leur digestion, les animaux dispersent des graines et des noyaux un peu partout dans la forêt.
Ce qui permet donc à la plante de se reproduire et de se déplacer dans l'environnement.
Explique Adrien Van Tom, chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Ça va même plus loin. Il y a certaines espèces d'arbres qui ont besoin de passer à travers le tube digestif d'un animal pour se développer. Il y a même des endroits où il y a presque 90% des espèces d'arbres qui dépendent des animaux.
Par exemple, en Afrique de l'Ouest, l'arbre de Boko a besoin de l'éléphant pour disperser ses graines. Sans lui, cet arbre n'a presque aucune chance de se développer. La flore et la faune sont donc interdépendantes. Seulement, voilà, les grands animaux sauvages des forêts tropicales sont les cibles privilégiées des braconneurs. En 30 ans, la population d'éléphants dans le monde a chuté de 86%.
Pourquoi la disparition des grands mammifères est-elle particulièrement néfaste pour la forêt tropicale ?
Alors justement, ce sont les espèces sauvages de grande et de moyenne taille qui sont les plus chassées. Et ce sont ces mêmes animaux qui expulsent les graines d'arbres favorables au stockage de carbone. Les grands animaux, comme les éléphants ou les chimpanzés, avalent de plus gros noyaux d'arbres fruitiers car leur tube digestif est plus développé que ceux des petits animaux. De ces noyaux poussent des arbres à forte densité de bois. Et ce sont eux qui stockent le mieux le carbone. Alors la perte de grands mammifères dans les forêts tropicales mène à ce que les scientifiques appellent le syndrome de la forêt vide. Moins de biodiversité, c'est moins d'arbres et c'est égal à des forêts qui capturent moins de carbone.
Alors faut-il lutter encore davantage contre le braconnage des espèces menacées ?
Oui, mais cela ne suffit pas, parce que la disparition des grands animaux sauvages des forêts tropicales n'est pas seulement due au braconnage, mais aussi aux humains qui s'emparent de l'habitat naturel des animaux. En Afrique centrale, par exemple, explique Adrien Van Tom, la population est aujourd'hui en conflit avec l'éléphant.
Il va sortir de la forêt et puis dévaster des plantations, puis les gens peuvent perdre en une nuit le fruit de tout leur travail de l'année. Ça peut aussi poser des problèmes de sécurité, avec des blessures, voire des morts dans les populations humaines.
La cohabitation entre l'homme et la nature est donc au cœur du problème. Pour protéger les grands mammifères et ainsi permettre à la forêt tropicale de remplir son rôle de puits de carbone, il est indispensable d'inclure les populations locales et donc de prendre en compte leurs besoins dans l'ensemble des mesures de conservation.
Linda Rousseau pour notre question d'environnement, merci. Et bientôt 5h30, en temps universel, sur la radio du Monde, le journal dans 4 minutes, précisément, et d'abord un peu de musique, avec la Guinéenne Natou Camara et son titre Sinkomina, dans la sélection du mois d'RFI. Sinkomina, Natu Kamara sur RFI. Et vous retrouvez la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Bienvenue sur la radio du monde si vous nous rejoignez en ce jeudi matin. L'info revient dans une minute. A tout de suite.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale des maladies rares, les atteintes dermatologiques.
Demain,
émission Questions de femmes, l'anémie, la dépister, la prendre en charge.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Entre décembre 2024 et janvier 2025, Ahmed al-Shara est passé de figure montante à président de la transition en Syrie. Un pays qui s'ouvre à nouveau après des années d'isolement. De retour de reportage, Guilhem Deltaï nous raconte cette mutation entre espoir et défi.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.